Au commencement était Dieu. Aujourd'hui, Dieu est, demain, Dieu sera. Qui peut faire une image de Dieu ? Il n'a pas de corps, il est comme un mot sorti de ta bouche. Ce mot, il n'est plus, il est du passé et il vit encore. Tel est Dieu. C'est un hymne pygmée qui commence cette journée pour nous aujourd'hui. Et je vous invite à vous lever pour invoquer sur nous le nom de notre Seigneur. Seigneur, apprends-nous comment t'écouter, te prier, te chanter. Anime notre culte pour qu'il soit signe et témoignage de ta bonté, de ta grandeur. Amen. Chante, chante, peuple joyeux. Comme louange, aujourd'hui, je vous propose un extrait du psaume 139, les versets 13 à 16. Je vais le prendre. C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'étais en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui furent façonnés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Vous pouvez vous asseoir.
Vous savez ce que c'est qu'un psaume ?
Non.
Alors eux, ils vont répondre. Qu'est-ce que c'est qu'un psaume ? Qu'est-ce qui définit un psaume par rapport à un cantique, par rapport à une chanson ? Ah. Pardon ? Non, globalement, on appelle psaume ceux qui se trouvent, les chants qui se trouvent dans le livre des psaumes de la Bible. La psaume de la Bible, c'est un nombre de cantiques qu'on attribue à David ou à Salomon selon les uns et les autres, et qui se trouvent dans la Bible et que nous chantons et que la Réforme notamment a mis en musique. Voilà. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le 139, il y en a 150 en tout, et quelques versets qui disent ceci, « Je te loue d'avoir fait de moi une créature merveilleuse. » Ça veut dire quoi, merveilleux ? Ah ouais, vas-y. Non ? T'as eu une idée, quelle est partie ? Merveilleux, c'est quelque chose ? Qu'est-ce qu'on fait quand on voit quelque chose de merveilleux ? Vous avez une idée ? Ah, moi j'aurais dit... Oh, mais oui, oui, c'est ça. Quand on reçoit quelque chose de merveilleux, on fait « Oh !» Eh bien, tu sais quoi ? Toi, vous êtes des créatures merveilleuses. Quand vous regardez, vous faites « Oh !» Alors, pas trop, hein, parce que après, on tourne un peu à la vanité. Mais on a le droit de se dire, en se voyant, « Oh, je suis une créature merveilleuse. » Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi, du coup ? Si toi, tu peux dire que tu es une créature merveilleuse, que toi, tu peux le dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Que tout le monde, que chacun est une créature merveilleuse. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous regardiez les uns les autres et vous fassiez « Oh !» Ah, c'est bien, même. Alors évidemment, comme ça, ça fait un peu, je vous l'accorde, un peu factice. Et si vous faites ça réellement dans la vie, peut-être que quelqu'un va se demander si vous ne fichez pas un peu de lui. Mais c'est cette attitude-là. Alors sans faire le haut, j'entends bien. Hein. Mais ce regard-là, quand on rencontre quelqu'un, écoutons ce regard. Alors, vous avez compris beaucoup de choses du message de la Bible si vous retenez ces deux choses-là. Vous êtes une créature, chacun d'entre vous est une créature merveilleuse. Merveilleux, ça ne veut pas dire parfait. Hein. Si vos parents vous font des reproches, vous ne pouvez pas leur dire « Oui, mais le pasteur a dit que j'étais merveilleux. » Non. Merveilleux, ça ne veut pas dire parfait. Mais vous êtes une créature merveilleuse et ne laissez personne, rien ni personne, vous convaincre du contraire. Mais ça veut aussi dire que ceux que vous rencontrez, même s'ils ne sont pas toujours sympathiques, vos camarades, vos frères et sœurs, les parents, les voisins, les camarades de classe, sont aussi des créatures merveilleuses. Si vous vous souvenez de ces deux choses, vous vous souvenez de beaucoup de choses qui sont dans la vie. Et si vous arrivez à vivre ces deux choses, alors vous êtes encore mieux que merveilleux, alors je ne sais pas ce que c'est quoi. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que merveilleux ? Difficile, hein ? Époustoufle. Je ne sais pas si c'est mieux, mais j'aime beaucoup ce mot, époustoufle. Voilà, je vous propose de vivre ça et je vous propose de chanter « Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres ».
Prenez place. Donc là, les plus jeunes d'entre nous vont nous quitter pour aller voir le récit de la naissance d'Isaac dans l'histoire d'Abraham et de Sarah. Je vous propose de nous placer sous le regard de Dieu avec nos ombres et nos lumières. Nous prions. Nous sommes tombés, Seigneur, encore. Nous n'y arriverons décidément jamais. Comment oser encore te regarder ? Seigneur, tu nous aimes et nous l'avons oublié. Nous t'avons oublié parce que nous avons trop pensé à nous-mêmes. Mais ta voix et ton regard et ton amour nous font mal. Seigneur, si nous sommes à terre, déchirés, si nous n'avons plus de force, si nous n'osons plus rien promettre, sois à nos côtés. Allons, relevez la tête. N'est-ce pas votre orgueil surtout qui est blessé ? Si vous m'aimiez, vous auriez de la peine, mais vous auriez confiance. Croyez-vous que l'amour de Dieu a des limites ? Croyez-vous qu'un seul instant j'ai cessé de vous aimer? Mais vous comptez encore trop sur vous-même au lieu de ne compter que sur moi. Demandez-moi pardon et puis relevez-vous vivement. Car ce n'est pas de tomber qui est le plus grave, mais de rester à terre. Mon amour n'a pas de limite, pas un seul instant que j'ai cessé de vous aimer, dit notre Seigneur. Et je vous invite donc à vous lever vivement pour chanter. Quand les montagnes... Ah, pardon, j'ai oublié quelque chose. Ah, bon, ah oui, bon, on le fait juste après. Oui, bah. Ah oui, du coup, c'est pas moi, d'accord. On va le chanter, voilà. Asseyez-vous. Alors, non, en fait, je ne me suis pas trompé du tout, c'est fait exprès. Parce que qu'est-ce qui vient normalement maintenant? C'est le rappel de la volonté de Dieu. Et où trouve-t-on cette volonté de Dieu? Eh bien, dans la Bible. Et ça tombe bien, puisque nous allons remettre à ceux qui commencent le caté cette Bible, enfin une Bible. Alors, c'est Sylvie, en charge. Je peux venir ici, oui.
Alors, bonjour à tous. Donc, encore cette année, nous allons accueillir des jeunes écoliers bibliques, on va les appeler comme ça. Hein. Donc, je vais appeler Lison. Hein. Alors, Lison, je te remets une Bible. Elle va durer, tu vas t'en servir toute ta vie. Tu auras droit de l'ouvrir, tu auras droit d'utiliser du stabilo, parce qu'on apprend aux enfants à utiliser du stabilo dans leur Bible pour marquer ce qui est important ou le verset qui leur a plu, voilà, qu'ils puissent s'en souvenir. Et donc, je te souhaite un bon bout de chemin avec nous. Liora ? Alors, Liora, je te donne ta Bible aussi pour faire notre petit bout de chemin ensemble. Et là encore, cette année, nous sommes partis sur le thème « Les belles histoires de la Bible » en plus. Donc, on va avoir du travail à faire avec ce joli livre. Et je voulais savoir s'il y avait d'autres enfants, parce que quelquefois, on a des enfants qui apparaissent de temps comme ça, qui n'ont pas encore de Bible. Non, on sait qu'il y a des absents qui seront là la prochaine fois, par contre.
Alors c'est dans cette Bible que nous lisons ceci. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Oh, que ces choses belles! Prenez place. Nous allons maintenant écouter l'ensemble du psaume 139, mais avant nous prions. Dieu notre Père, accorde-nous ton Saint-Esprit, que ta parole soit pour nous une bonne nouvelle, qu'elle soit la source de notre joie, qu'elle nous permette de vivre toujours mieux, comme tes enfants. Amen. Donc c'est Pierrick qui va nous lire le psaume 139. Je l'ai mis, il est là. Bon, raté. Si je le trouve.
Seigneur, tu m'as scruté et tu connais. Tu connais mon coucher et mon lever. De loin, tu discernes mes projets. Tu surveilles ma route et mon gîte, et tous mes chemins te sont familiers. Un mot n'est pas encore sur ma langue, et déjà, Seigneur, tu le connais. Derrière et devant, tu me sers de près, tu poses la main sur moi. Mystérieuse connaissance qui me dépasse, si haute que je ne puis l'atteindre. Où m'en aller pour être loin de ton souffle? Où m'enfuir pour être loin de ta face? Je gravis les cieux, te voici. Je me couche aux enfers, te voilà. Je prends les ailes de l'aurore pour habiter au-delà des mers. Et là encore, ta main me conduit, ta droite me tient. J'ai dit... Au moins que les ténèbres m'engloutissent, que la lumière autour de moi soit la nuit. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. Et la nuit devient lumineuse comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as créé mes reins. Tu m'abritais dans le sein maternel. Je confesse que je suis une vraie merveille. Tes œuvres sont prodigieuses. Oui, je le reconnais bien. Mes os ne t'ont pas été cachés lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans une terre profonde. Je n'étais qu'une ébauche et tes yeux m'ont vu. Dans ton livre, ils étaient tous décrits, ces jours qui furent formés quand aucun d'eux n'existait. Dieu, que tes projets sont difficiles pour moi, que leur somme est élevée. Je voudrais les compter, ils sont plus nombreux que le sable. Je me réveille et me voici encore avec toi. Dieu, si tu voulais massacrer l'infidèle, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Tes adversaires disent ton nom pour tromper, ils le prononcent pour nuire. Seigneur, comment ne pas haïr ceux qui te haïssent? Comment ne pas vomir ceux qui te combattent? Je les hais d'une haine parfaite, ils sont devenus mes propres ennemis. Dieu, scrute-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes soucis. Vois donc si je prends le chemin périlleux et conduis-moi sur le chemin de toujours.
Comme un souffle fragile.
Thank you.
Dimanche dernier, un certain nombre d'entre nous participaient à l'Assemblée du désert. La liturgie était, disons, classique. Très. Au point d'utiliser la vieille confession du péché qui a longtemps sévi dans nos églises réformées, celle de Jean Calvin. Pour mémoire, je vous donne le début. « Seigneur Dieu, Père éternel, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien. Nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous en conséquence la condamnation et la mort. » Vous avez bien la mort. Bref. Et il y en a encore, ça c'est que le tiers, hein, il y a encore deux fois ça. Et je vous raconte ça, c'est parce qu'à l'issue de la célébration, j'ai plusieurs personnes, c'est-à-dire au moins deux, qui sont venues et qui se sont plaints en trouvant ce texte trop culpabilisant. Alors que moi, c'est étonnant, justement, je m'étais dit en l'écoutant, « Ah la vache, qu'est-ce que ça me libère !» Nous avions entendu le même texte, mais il avait suscité en nous des ressentis diamétralement opposés. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs pistes possibles, tendance ou non à la culpabilisation, préjugés, interprétation intéressée. Et il en va du même du psaume que nous venons d'entendre, notamment le début. « Seigneur, tu m'as examiné à fond, tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. » Comment avez-vous reçu ce texte ? Dans le Nouveau Testament, il y a un mot, épiscope, qui viendra en évêque en français, mais une traduction pourrait être surveillant, ou celui qui veille sur. Surveiller et veiller sur, ce sont les mêmes syllabes, mais cela ne convoque pas les mêmes réalités. Donc, petit sondage express, main levée, qui parmi vous, à l'écoute de ces versets, a ressenti un Dieu surveillant ? Ouais. Hein ?
Quelle est l'autre option ?
L'autre, c'est un Dieu qui veille sur. Alors, qui a ressenti un Dieu surveillant ? Ouais, il y en a au moins quatre honnêtes, c'est bien. qui a senti un Dieu qui veille sur ? Ah, plus. Alors, qui a hésité, qui s'est dit, est-ce que c'est du lard ou du cochon ? Pas mal, d'accord. La question que je ne vous poserai pas, mais que vous devriez vous poser à vous-même, pas maintenant, hein, après, c'est pourquoi j'ai spontanément ou non choisi cette interprétation-là, plutôt qu'une autre. Ai-je choisi la version surveillant générale ? Oui, je sais qu'il y a 50 ans que ça n'existe plus, mais qu'on appelle CPE, mais est-ce que j'ai choisi cette version surveillant générale ? C'est parce que le Premier Testament, donc c'est un Dieu terrible, un Dieu vengeur. Est-ce que c'est parce que je me sens coupable ? Est-ce parce que, au contraire, cela m'arrange ? Ainsi, les méchants seront punis et les gentils, dont moi évidemment, seront récompensés. Et si j'ai choisi la version mère-poule, ou père-poule, je veux vexer personne, est-ce parce que Jésus est gentil, donc Dieu est gentil ? Parce que j'ai besoin de liberté et que cet amour de Dieu m'étouffe ? Ou est-ce parce que ça m'arrange, mes manquements sont oubliés, mes peurs apaisées ? Il n'y a aucune interprétation innocente. Chaque fois que j'entends un commentateur de la Bible ou un prédicateur dire « c'est là le pur évangile », je fais la même tête que l'Innoventura dans « Ne nous fâchons pas ». Vous voyez, nous avons tous des raisons de choisir ou de ressentir une interprétation plutôt qu'une autre. Soit qu'elle vienne nous conforter, voire nous réconforter, soit qu'elle vienne heurter une zone sensible qui demandait qu'à réagir. Si ça vous intéresse, je vais vous dire comment moi je ressens le début du psaume, de ce psaume. D'abord, d'un premier mouvement, je ressens comme intrusif, ce qui tend à démontrer que je ne suis pas aussi immunisé à la culpabilisation que je le prétends. Puis, dans un deuxième temps, je me raisonne, je me rassure, je choisis consciemment l'interprétation réconfortante. Attention, ce n'est que mon ressenti. Et ce n'est pas du tout la vraie interprétation, qui est beaucoup plus subtile, « vraie », j'ai mis en guillemets, évidemment, hein, qui est beaucoup plus subtile, nous y reviendrons, promis. nous avons tous des biais cognitifs, c'est-à-dire des préjugés qui influencent notre lecture des faits et des paroles d'autrui. S'il peut être payant en politique, notamment, de dénoncer ceux de ses adversaires, il est beaucoup plus enrichissant spirituellement de repérer les siens propres. Alors, vous me direz, oui, mais cette histoire de biais, cognitifs, c'est très moderne, c'est très contemporain, c'est un truc de mode. Oui, peut-être, mais dans la Bible, c'est déjà mis en valeur, enfin, mis en évidence. Dans la parabole, qu'on appelle habituellement les ouvriers de la 11e heure, lorsque les ouvriers de la première heure viennent se plaindre de leur injustice qui leur est faite, le maître répond « Verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Ou plus littéralement, « Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? » Est-ce le geste du maître qui est injuste ou est-ce le regard des serviteurs ? Et de même, dans la non moins célèbre parabole dite des talents, Matthieu toujours, celle où trois serviteurs reçoivent chacun une fortune, alors que les deux premiers investissent, le troisième conserve. Ils ont vécu la même chose, mais leur image du maître les a fait considérer la situation différemment. Les deux premiers y ont vu une chance, une grâce. Le dernier y a vu un piège. Il a fabriqué lui-même le piège qui s'est refermé sur lui. Il y a une ambiguïté profonde dans cette affirmation de la constante présence de Dieu à nos côtés. C'est un peu, enfin, un parallèle qui vaut ce qui vaut, bien évidemment, mais avec les caméras de sécurité. Elles sont partout, ou presque, mais est-ce qu'elles veillent sur nous ou est-ce qu'elles nous surveillent? Un peu des deux, hein? Et on sent bien que l'argument qui prétend que ceux qui n'ont rien à se reprocher n'ont rien à redouter de cette surveillance, cet argument est un peu court. Une autre comparaison est celle des parents et des enfants. Nos enfants ont souvent l'impression qu'on les surveille, alors que nous, nous avons l'impression de veiller sur eux. Mais on les surveille un peu quand même. Alors, je vous ai promis la bonne interprétation, le pur évangile. Non, pardon. Je vous ai promis mon interprétation et non mon ressenti. Bien des indices laissent entendre qu'au début du chant, le psalmiste considère Dieu comme un surveillant. Le verset 7, « Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle ? Où pourrais-je fuir pour t'échapper ?» ne laisse pas beaucoup de doutes. Dieu est partout, tout le temps, pas moyen d'être tranquille, pas moyen de lui échapper, pas moyen de se cacher. Sa présence est oppressante, étouffante. Puis, il se rappelle les dons de Dieu, que sa présence l'a protégé dès le début de sa vie, qu'il lui doit ce qu'il est, une créature merveilleuse. Alors, il déborde de reconnaissance, il a découvert, redécouvert le Dieu qui veille sur lui. Mais immédiatement, il glisse, il chute. Son amour de Dieu devient colère et haine contre ceux qui disent du mal de son Dieu. « Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi selon leur astuce, ils t'invoquent pour tromper, eux, tes adversaires. Comment ne détesterais-je pas ceux qui te détestent ? Comment n'aurais-je pas du dégoût pour ceux qui se dressent contre toi ? Je les déteste totalement, ils sont pour moi des ennemis. » Et j'aime imaginer qu'à ce moment-là, le gars, le psalmiste, il se dit « Mais nom de Dieu, il y a une minute, c'est moi qui disais du mal de Dieu. » Une minute avant, à peine. Et il se dit, aïe, ma condamnation des autres est ma propre condamnation. Et là, il demande à Dieu, dans les deux derniers versets, de lui donner son esprit d'être, de l'accompagner sur ce chemin de crête entre le rejet de Dieu et le fanatisme. Alors, est-ce grave de tomber et de verser d'un côté ou de l'autre ? Cela n'est que si on reste prisonnier de ce choix, de nos biais. La question de savoir qui est Dieu pour nous doit être une question qui reste ouverte. Lorsque je rencontre des gens qui savent que je suis pasteur, il y en a toujours un qui, à un moment donné, me dit « Moi, je ne crois pas que Dieu existe. » Pas forcément de manière agressive. Hein. Il ressent le besoin de me le faire savoir. Et ma réponse est généralement « Alors définis-moi ce que tu entends par croire, par Dieu et par exister. » Et une fois qu'on aura discuté de ça, on sera peut-être même d'accord. À ceux qui lui disaient « Je ne crois pas en Dieu », un des nombreux pasteurs mono, je ne sais plus lequel, répondait « En quel Dieu ne croyez-vous pas ?» Ainsi, je suis d'accord avec Yuri Gagarin, le premier homme à être allé dans l'espace, qui avait annoncé qu'il n'y avait pas rencontré Dieu, et que par conséquent, celui n'existait pas. En effet, Yuri, ce Dieu-là n'existe pas. Notre conception de Dieu évolue avec notre âge, et c'est normal. Elle évolue aussi avec nos besoins, notre expérience de vie, nos expériences spirituelles et nos rencontres. C'est très bien. Le problème, c'est lorsque notre compréhension de Dieu reste figée. Avoir à 5 ans une image de Dieu comme un barbu sur un nuage, c'est acceptable. Après 5 ans, c'est inquiétant. Désolé, Yuri. Avec les grands du catéchisme, alors les plus jeunes du catéchisme, les deux premières années, vont avoir une introduction à la Bible aujourd'hui. Avec les grands du catéchisme, nous allons nous interroger sur nos images de Dieu. Et j'aimerais vous dire que j'ai choisi ce psaume 139 pour initier cette réflexion. Mais ce ne serait pas vrai. En vrai, j'avais choisi ce psaume uniquement pour la créature merveilleuse. Je trouvais que c'était un bon thème pour les plus petits. Et puis j'ai redécouvert le reste du psaume. Il convenait très bien pour initier cette rentrée du catéchisme. À croire que quelqu'un veillait sur moi, alors peut-être en fait il me... Notre programme de l'année... Mais il ne faut pas que les catéchumènes le sachent. Alors vous les catéchumènes là-haut, là, bon, ils n'écoutent pas, c'est pas bon. Bouchez-vous les oreilles. Ils n'entendaient pas, donc c'est bon, je peux vous le dire. Je vais vous révéler notre ambition secrète pour cette année. Qu'il termine l'année avec une image de Dieu qui ne soit pas figée, mais qu'il sache la remettre constamment en question. Et c'est une ambition que nous pourrions adopter pour nous-mêmes. Amen. Nous chantons mon encre et ma voile. Mon encre, avec un A. Thank you. Par Yvonne. Ah, c'est à toi.
Comme introduction au moment de l'offrande, vous allez donc visionner une petite vidéo humoristique. Tout ça pour vous donner envie de venir le 8 octobre à la journée d'offrande où vous aurez les réponses aux questions qui sont posées dans cette vidéo.
Pour les siècles et les siècles. Amen. Et maintenant, Adélaïde va passer par nous, pour nos bonnes œuvres. Très généreux de votre part. Ma pire angoisse, c'est de devoir donner pour la quête et d'avoir qu'un billet de 50 euros. C'est normal, attendez. En même temps que je me dis, c'est quand même honteux de donner si peu. Je ferai un don plus tard. Vous plaisantez, 50 euros, c'est déjà beaucoup pour la quête. Bon, bah, acteur studio, hein.
Mon ami, je sais.
Ça va pas, mon ami?
C'est trop pour moi, non, mais je sais pas si je tiendrai.
Il faut que je prenne l'air.
Ok, vas-y, je donne pour toi.
Non, c'est bon, ça va, merci. Vous prenez la carte bleue?
Bien sûr.
Super. Mettez 10 euros, s'il vous plaît. Sérieux, ce serait tellement plus simple. En fait, il va où tout cet argent?
Elle est pauvre, je sais pas.
J'ai pas confiance.
Si tu veux pas donner, tu donnes pas, t'es pas obligé.
On est pas obligé. Non, je donnerai rien parce que je suis pas obligé.
Putain, 50 balles quand même!
Oh, après tout, je m'en fous, je mets ce que je veux.
Ah non, 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 non,
bah, à la base, j'ai mis 50 euros en fait. Donc, du coup, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris 20, 10 pour mettre 30, quoi. Parce que. Tout. Voilà, j'ai tout.
Pas 1 euro, 50 centimes.
Je suis désolé, j'ai vraiment rien fait.
Ah,
quoi? Ah, non!
Ouais, il y a d'autres vidéos plus chelou. Ouais. On maîtrise pas tout. Bon. Alors, en attendant le culte d'offrande, on a l'offrande du culte. C'est maintenant le moment du don. Et donner avec joie, et on ne regardera pas si vous reprenez une partie du truc. Thank you. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes et merci pour la joie d'offrir. Amen. Pierre, si tu veux bien.
Bonjour à chacun d'entre vous. Merci d'être ici, tous ensemble. Merci à Mélanie et Pierre qui nous ont accueillis ce matin. Et merci à Vincent de ta présence parmi nous. Voilà, dans l'ordre chronologique, le groupe Pain, Parole, Partage, c'est la première réunion aujourd'hui après le culte. Il n'y a pas de changement, c'est tout bon. Mardi, il n'y a pas chorale, pour une raison simple, c'est qu'il y a un concert le soir à 20h30. Donc ce concert, c'est la chorale des Rives du lac de Saint-Joriot et la chorale de Thônes qui s'associent pour vous proposer un programme italien. Voilà, que des compositeurs qui ont composé en italien. Voilà, il y a l'affiche dans le hall, vous pourrez aller la voir. Mercredi, le groupe Parole et Prière de 18 à 19h. Je vais un peu plus loin. Il y a l'ACAT qui nous propose d'écrire, c'est pour en France, c'est par rapport au Congo. Voilà, je vous lis simplement le petit mot. Rendons présent dans nos prières ces civils exécutés en novembre 2022, que la France apporte un soutien spécifique à la Cour pénale internationale pour que l'enquête aboutisse et que les auteurs de ces crimes soient condamnés. Voilà, le principe est simple, vous prenez une carte, vous mettez un timbre et vous envoyez ça.
Vous signez.
Et oui, il faut signer. La Bible en partage, donc c'est dans les programmes, c'était marqué le vendredi, donc exceptionnellement ça n'a pas lieu. La première rencontre de Bible en partage de groupe de parole œcuménique aura lieu en octobre. Par contre, vendredi soir à 18h aura lieu ici un rassemblement œcuménique sur le thème de la création, comme il y a tous les mois de septembre depuis quelques années. Donc cette année, c'est ici à 18h. 18h30, merci. Ensuite, des nouvelles du consistoire, simplement pour vous dire que la paroisse d'Annemasse propose une exposition. Voilà, c'est une exposition sur la création. Et donc il y a un petit, si vous voulez le voir, je le mettrai dans le hall d'accueil. Et puis, le 15 octobre, c'est un peu plus loin, ça sera le deuxième culte des familles. Et ça sera aussi le culte d'installation de notre nouveau pasteur. Voilà, donc venez nombreux le 15 octobre.
Et le 8, il y a l'offrande.
Et le 8, bien entendu. Ben, venez tous les dimanches.
Et puis tu n'as pas remercié les musiciens.
Oui, donc merci à tous les musiciens pour l'orchestre. Et il y a deux interventions. Il y a Claudia pour le Serra, non, pour le Lord de Malte, Serra, et puis Sylvie pour les scouts. Ah, t'es là.
Oui, alors aujourd'hui vous allez voir dans le hall qu'il y a un gros machin sur une visite qu'on propose à la fin du mois, donc le samedi 30 dans l'après-midi, pour aller voir le musée de l'Ordre de Malte qui se trouve sur ce côté de Genève, à Bardonnay. Et bon, c'est un musée privé, donc comme on a commencé à travailler avec l'Ordre du Mal qui fait des maraudes ici à Annecy, on a pu obtenir une invitation. Il faut être un minimum de 10, un maximum de 20. J'aurais besoin de 5 voitures, fois 4 dans chaque voiture. L'entrée, c'est 20 euros. Et puis 8 euros pour les frais qui seront donc partagés entre tous les passagers. Et vraiment, je pense que ça vaut le coup parce que c'est l'organisme qui est à peu près le plus ancien hospitalier, parce que c'était 1000 et quelques que ça a commencé. Et ils continuent à faire beaucoup de travail. Et comme j'ai dit, même ici, vous avez qu'à aller à la gare vers 10 heures du soir, vous allez voir en train de travailler pour amener la nourriture, etc. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux, enfin, pas plus que 20. OK.
Bonjour à tous, donc Sylvie, et donc effectivement je suis là pour vous parler des scouts, même si j'ai arrêté mon engagement moi-même en novembre l'an dernier, mais vous voyez bien, on a toujours un foulard autour du cou une fois qu'on a été scout. Pour vous donner des nouvelles, vous en avez eu dans le Nouvelle, le petit fascicule avec un petit article concernant les camps. Je voudrais juste faire deux annonces particulières. La première journée de rentrée, le dimanche, où il y aura aussi les inscriptions pour les nouveaux, c'est dimanche 24 septembre. Je ne connais pas encore le lieu, parce que pour le coup, je n'ai pas forcément toujours les informations maintenant que je n'y suis plus. Mais en tout cas, retenez déjà cette date, dimanche 24 septembre, la journée de rentrée. La veille, notre équipe de responsables, de cadres, elle va se rencontrer pour préparer tout ça. Et nous sommes toujours et encore à la recherche de responsables, puisque nos responsables sont étudiants, ils partent à droite, à gauche, donc en particulier chez les Louveteaux. Si vous connaissez un jeune qui a 17 ans, qui n'a jamais fait de scoutisme ou qui en a fait, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est vraiment une équipe incroyable et formidable. L'année prochaine, les Louveteaux, il y a encore de la place, si mes informations sont bonnes. Les Éclés, je crois bien qu'ils sont complets. Donc les Louveteaux, ça veut dire 8-12 ans. Les Éclés, c'est 12-16. Les aînés, leur équipe poursuit celle qui est en deuxième année. La première année va démarrer avec pour responsable Solène et Nicolas Hichène, donc deux personnes bien connues de la paroisse d'ici. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? Les camps l'année prochaine, il y en aura un, ce sera les Éclés qui vont faire un camp itinérant, normalement, si tout se passe bien, avec une équipe autour de Lucie, Solène, Nicolas et Émile. Et les Louveteaux, ce sera Paulin qui fera le directeur de camp. Mais bon, voilà, ce sera des choses que vous connaîtrez tous au fur et à mesure. En tout cas, retenez la date, dimanche 25 septembre, et toujours l'appel pour les responsables. Merci beaucoup. Et par contre, oui, une dernière chose, il y a une famille qui m'a écrit un mail. Je ne sais pas si elle est présente là aujourd'hui, mais en tout cas, je suis au fond, à la fin du culte. Et puis, s'il y a des questions à poser, je peux aussi y répondre. Merci beaucoup.
C'est pas la femme, par hasard ?
Ma femme. Non, c'est la famille Priva.
Ah. On a aussi écrit un mail.
Du coup, directement aux bonnes personnes. Je n'ai pas
reçu. Bien. Je vous invite à vous lever pour dire ensemble la confession de foi. Dieu est vivant. Nous sommes dans l'émerveillement de sa création. Avec Jésus, il nous donne vie et son souffle nous met en marche. Dieu est vivant. Il connaît chacun de nous et nous accepte tels que nous sommes. Sa grâce nous libère, éclaire notre chemin. Dieu est vivant. Nous n'en avons pas toujours confiance. Nous aurions tout de devoir ne suffira jamais à expliquer le pourquoi de la vie. Dieu est vivant, nous lui faisons confiance. En toi, Seigneur, je place mon espérance. Amen. Quand le soir descend sur ma peur.
Quand le soir descend sur ma peur.
Prenez place et unissons-nous dans la prière d'intercession. Dieu notre Père, toi qui nous connais mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, nous voulons te confier au moment de la reprise de nos activités les projets que nous formons pour nos vies personnelles et familiales, dans nos vies professionnelles, dans notre vie paroissiale et sociale. Conduis-nous dans tes chemins, éclaire-nous, mène-nous au point de lumière où s'illuminent les pas. Fais résonner à nos oreilles la voix qui dit « C'est ici le chemin, marchez-y ». Et donne-nous alors de le vouloir ferme et stable et de mener à bien cette unique parole. Toi qui nous as créés, nous as tissés dans le sein maternel, nous te prions pour tous ceux qui, dans notre entourage, souffrent dans leur corps ou dans leur être profond et ne peuvent pas ce matin confesser qu'ils sont une vraie merveille. Apaise leur souffrance, vivifie leur foi et leur espérance. Toi, devant qui les ténèbres ne sont pas obscures, toi par qui la nuit devient lumière, nous te prions pour toutes les situations ténébreuses de ce monde. Nous te supplions de venir illuminer de ta paix et de justice tous les peuples en conflit, tous ceux qui sont sous la domination des tyrans. Tous ceux qui désirent la paix t'implorent, exauce-les. Exauce-nous, Seigneur, que leur nuit devienne lumière. Et ensemble, nous te disons la prière de tes enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction et nous terminerons avec un dernier cantique au dernier jour. Si j'avais moins souvent le nez en l'air pour te chercher, je te trouverais, Seigneur, dans le regard des autres, dans leur joie et leur peine, dans ce qui fait qu'ils te ressemblent. La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen. Bon dimanche à tous.
Vidéo perso.